Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin.
On rejoint maintenant Francis Charrier, qui est co-directeur des recherches au Centre de recherche pour l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, le CRECHPECH. Bonjour, M. Charrier.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Très bien, merci.
On a voulu vous parler aujourd'hui, M. Charrier, parce que, je l'ai dit, vous travaillez pour le CRECHPECH. En fait, vous êtes le co-directeur des recherches. Et on parle beaucoup, j'ai l'impression, sur Internet et puis dans différents articles, de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, puis à la fois des défis et des possibilités, donc des avancements que ça peut apporter aussi aux personnes en situation de handicap sur le marché de l'emploi.
Oui, effectivement. Puis je pense qu'avant de parler de ces éléments-là, je pense que c'est important de revenir sur c'est quoi l'intelligence artificielle. En fait, c'est vraiment tous les systèmes informatiques qui permettent à quelque part de soutenir l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception, la prise de décision. Donc ça, c'est vraiment des technologies qu'on retrouve aujourd'hui là dans les technologies grand public, comme les téléphones, les navigateurs web. Vous avez aussi ces technologies qui se retrouvent dans tous les systèmes d'entreprise, là, tout ce qui est gestion de ressources humaines, gestion de la production, des éléments de cybersécurité. Et aussi, il y a de la technologie, en fait, associée à l'intelligence artificielle qui se retrouve dans les technologies d'assistance. Donc, tout ce qui est appareils auditifs, par exemple, tous les éléments par rapport à la transcription de la parole en texte. Puis, juste vous dire un élément par rapport à ça, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, il y a trois grandes applications, en fait, qu'on retrouve sur le marché du travail. Tout d'abord, il y a tout ce qui est les applications plus traditionnelles associées à l'automatisation des tâches, dans le fond, plus précises qu'on a sur le marché du travail. Donc, pensez seulement à Antidote pour les gens qui l'utilisent, tout ce qui est outils de gestion de calendrier. Vous avez aussi tout ce qui est les applications plus conversationnelles, où là, on va améliorer, dans le fond, la communication entre les clients et aussi les employés, mais aussi en intérieur même d'une organisation quand les gens ont besoin d'aide ou ont besoin de conseils. Donc, tout ce qui est les chatbots, les assistants virtuels. Et vous avez aussi tous les outils, en fait, qui permettent de générer des contenus visuels, auditifs, vidéos, tout ça comme ChatGPT, Copilot, Canva. Donc, ça, je pense que c'est important là, de partir avec ces éléments-là. Puis, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que oui, il y a beaucoup d'opportunités, je pense, pour les personnes en situation de handicap, là, pour ces technologies-là, mais ces technologies-là, en fait, ont été développées principalement pour répondre aux besoins des organisations. Donc, en fait, puis ces technologies-là ne sont pas toujours développées pour répondre aux besoins. En fait, des personnes sont handicap. Donc, c'est pas, les gens sont souvent pas très impliqués dans leur développement, non. Dans leur test. Fait que ça fait en sorte que parfois, on développe des solutions qui correspondent pas toujours à leurs besoins puis qui peuvent générer davantage d'obstacles. Donc, ça, je pense que c'est un élément qui est super important, donc, qu'il faut discuter aujourd'hui.
Mais en fait, j'ai aussi l'impression qu'on cherche aussi à sortir la plus grande monétisation, c'est-à-dire de faire le. L'IA ou l'application qui va être le plus payant, finalement, est pas toujours le plus utile, particulièrement pour des personnes qui ont des besoins particuliers.
Ben en fait, effectivement, quand on veut utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle dans les entreprises, en général, c'est pour prendre des décisions plus rapidement, c'est pour augmenter la productivité, réduire les coûts. Donc, évidemment, ça n'empêche pas que certaines technologies peuvent avoir des effets positifs pour les personnes, si on peut pas remettre ça en question, mais c'est pas souvent l'objectif principal des organisations. Donc, c'est pourquoi, en fait, il y a actuellement très peu d'études, on a très peu d'informations sur comment les gens l'utilisent, c'est quoi les outils, est-ce que ça a vraiment un effet positif sur leur carrière, quoi que ce soit, mais il y a quand même beaucoup d'informations sur c'est quoi les opportunités et les risques, en fait, qu'on peut avoir par rapport à ces technologies-là.
Et c'est quoi les risques si on se place dans quelque chose d'assez micro, là? On parle de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Quels sont les risques avec l'intelligence artificielle?
Oui. En fait, je vous donne aussi des opportunités puis des risques qui sont souvent associés. Donc, d'abord, au niveau du recrutement, dès le départ, en fait, il y a des gens qui considèrent que ça pourrait amener à développer tous des processus de recrutement ou d'embauche qui vont valoriser, en fond, les candidatures différentes. Donc, ça peut être vraiment faire en sorte d'élargir nos critères. On peut développer des offres d'emploi qui sont pleinement accessibles. Donc, on demande, par exemple, à un chatbot ou quoi que ce soit, un outil, de nous développer ça en fonction, par exemple, de certains critères. On peut aussi favoriser, dans le fond, faciliter, dans le fond, tout le remplissage des formulaires. Parfois, c'est assez compliqué, surtout quand ils ne sont pas nécessairement accessibles. Donc, ce sont des éléments, en fait, qui peuvent être positifs pour les personnes en situation de handicap. Mais de l'autre côté, en fait, on sait que parce que ces technologies n'ont pas considéré nécessairement les réalités et les besoins des personnes en situation de handicap, ben ça peut amener à des discriminations où là, on veut imposer des critères très stricts en matière là, d'embauche. Fait que ça peut vraiment faire en sorte qu'on va dévaloriser les profils atypiques, on va dévaloriser les compétences et expériences différentes. Donc, ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être désavantagés au bout de ça. Ça, c'est un des premiers éléments. Ensuite de ça, en emploi, je peux vous dire qu'on sait que ça peut nous soutenir la réalisation des tâches. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont la difficulté à faire la rédaction, c'est des éléments qui peuvent vraiment les aider. Donc, on va leur donner, ils vont faire un premier draft, par exemple, un courriel, reformuler, faire la correction grammaticale. Tout ça, c'est super intéressant pour beaucoup de personnes en situation de handicap. Mais d'autre côté, c'est que l'utilisation peut venir à dévaloriser leurs compétences, là, et ça peut les amener aussi à se sentir un peu obligés d'utiliser. Donc, dites-vous, là, quand, par exemple, on se rend compte que l'intelligence artificielle nous permet d'avoir des meilleurs résultats que ce qu'on peut faire par nous-mêmes, bien, on est vraiment tenté d'utiliser en tout temps. Donc, ça fait en sorte que les gens vont, en fait, développer moins leurs compétences en matière de rédaction, par exemple.
Oui.
Ça, c'est un des risques, là, par rapport à ça. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on sait que, comme potentiel, ça peut favoriser l'automatisation de tâches qui sont répétitives, qui demandent beaucoup d'énergie ou de temps pour les personnes en situation de handicap. Donc, ça va venir augmenter leur productivité. Donc, pensez simplement à tous les courriels que vous recevez, les appels, votre agenda, toute l'entrée de données, toutes les tâches, par exemple, qui vont prendre beaucoup de temps, peuvent être fatigantes. Donc, ça, c'est un avantage.
Oui.
Mais de l'autre côté, ce que ça peut faire, c'est que ça peut contribuer à une intensification du travail. Donc, vu que ça prend moins de temps à faire certaines choses, bien là, on nous donne des tâches supplémentaires.
Oui.
On va amener aussi, par exemple, à que le rythme du travail va être beaucoup plus grand. Donc, les gens viennent avoir de moins en moins de contrôle, là, par exemple, sur leur journée de travail. Donc, vous voyez, il y a des opportunités et des risques à ce niveau-là. Aussi, on sait que ça peut contribuer à un meilleur soutien à la communication. Donc, pensez seulement aux personnes sourdes, par exemple, qui souvent ont besoin, par exemple, d'interprètes au travail, quoi que ce soit. C'est sûr que l'utilisation de certaines technologies, tout ce qui est transcription, voix texte, sous-titrage, des éléments comme ça, ça peut faire en sorte qu'avec ces technologies-là, bien, ils ont accès à du soutien rapidement, de bonne qualité, qui n'ont pas besoin de demander continuellement des interprètes. Ça, c'est quand même positif. Mais de l'autre côté, ça fait en sorte que les entreprises ont tendance à dire, bien, contentez-vous du sous-titrage, contentez-vous de la transcription, puis dans le fond, nous, on vous offrira pas des interprètes, par exemple. Donc ça, c'est des aspects qui peuvent être négatifs pour plusieurs personnes aussi.
Et ce que j'entends aussi, là, c'est vraiment que, d'un côté, puisqu'on est axé beaucoup, beaucoup sur la performance et qu'on utilise l'IA pour performer plus, donc pour aller plus vite, est-ce que ça peut pas aussi stigmatiser des personnes qui ont des rythmes différents, donc qui travaillent moins vite et finalement pousser les entreprises à favoriser, donc il y a des heures artificielles plutôt que de favoriser des personnes employées avec des rythmes qui sont peut-être moins axés sur la performance?
Absolument, c'est possible. Pour l'instant, on ne le sait pas encore, donc on peut quand même présumer que pour certaines personnes, ça va avoir lieu. Mais pensez simplement que quand on fait l'évaluation, par exemple, de la performance des gens, bien, si on a des critères très stricts, par exemple, puis qu'on décide que l'artificielle va faire un peu l'analyse, par exemple, je sais pas, des dossiers, la productivité, tous ces éléments-là, puis dites-vous qu'avec l'intelligence artificielle, on peut vraiment faire beaucoup plus là, de surveillance là, de proche.
Oui.
On peut vraiment faire en sorte de dire, bon, mais là, comment ça t'a pris de temps à faire telle activité? Tu as produit combien au bout de la journée? Donc, dites-vous que plus qu'on met ces technologies-là, plus qu'on a un potentiel de surveillance, puis plus que certaines personnes qui ont des rythmes différents, c'est sûr que ça peut les désavantager au final. Puis, ça peut faire en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas de promotion, par exemple, ou encore vont venir à perdre leur emploi. C'est possible.
Et comment on peut s'assurer que l'intelligence artificielle est utilisée correctement par les entreprises et qui est utilisée pour favoriser une diversité?
Mais je vous dirais, ça, la question est encore ouverte. Donc, encore aujourd'hui, on se pose même beaucoup de questions. Bon, premièrement, comment on doit l'intégrer dans les entreprises? Il y a des entreprises qui veulent, il y a d'autres qui veulent pas. Il y a des personnes aussi qui sont à l'aise, d'autres qui sont pas à l'aise. Puis, on se pose beaucoup ces questions-là. Même, je vais aller faire un aparté, là. Mais dans le milieu de l'éducation, par exemple, où là, on se demande, bon, les étudiants et les étudiantes, est-ce qu'ils devraient l'utiliser? Oui, non. On sait qu'ils vont peut-être avoir à l'utiliser quand ils vont être sur le marché du travail. Mais de l'autre côté, bon, tout ça est ouvert. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à voir. Bon, mais, comment on réfléchit à ces technologies peuvent discriminer, de quelle manière. C'est très difficile actuellement de savoir de quelle manière elles discriminent ou non. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir là, pour le futur. Puis, ces technologies aussi sont privées dans le sens qu'on ne peut pas voir à l'intérieur comment c'est fait.
Oui.
Donc, c'est très difficile. Donc, vous le savez sans doute, il y a des technologies qui sont utilisées par la police, par exemple, où là, bien, malheureusement, ça favorise le profilage racial.
Oui.
Donc, c'est un peu la même chose avec les personnes sous handicap. Au sens où il y a, par exemple, certains critères, par exemple, qui sont utilisés, qui vont faire en sorte que ça va les désavantager. Donc, pour l'instant, je vous dirais que c'est très difficile à savoir comment faire, mais je pense qu'il faut être très, très, comment dire, sensible, puis très aussi, comment dire, pas prudent. Ben, je dirais, oui, très prudent aussi dans la manière dont on l'utilise, puis c'est des questions qu'il faut vouloir en se poser là, très rapidement.
Et là, ce que j'en comprends, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de loi ou de normes d'utilisation qui ont été mises en place.
Ben, en réalité, souvent, en plus, ces technologies qui se développent tellement rapidement
oui.
que, dans le fond, souvent, une loi aujourd'hui ou une règle qu'on mettrait aujourd'hui, bien, elle pourrait être invalide le lendemain. Dans ce cas-là, je dis pas qu'il faut pas qu'il en aille, au contraire. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que je pense qu'à un certain point, il va falloir qu'il y ait un encadrement,
oui.
en fait, de ces technologies-là. Je sais pas de quelle manière. Moi, je suis pas quelqu'un qui est dans le milieu, là, qui est un avocat ou dans le milieu légal. Mais c'est sûr que il va falloir qu'on mette en place, comment dire, qu'on s'assure que ceux qui développent ces technologies-là assurent leurs responsabilités pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination volontaire ou involontaire qui se crée. Parce qu'on sait, dans le fond, que les technologies de type artificiel apprennent, dans le fond, de tout ce qui se passe sur Internet, où là, il y a beaucoup de discrimination, de propos racistes, oui. misogynes ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que, dans le fond, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on entraîne ces différentes technologies-là pour s'assurer, justement, de ne pas créer de préjudice là, pour différents groupes, comme les personnes à handicap, qui sont déjà très désavantagées sur le marché du travail.
Oui, donc... technologie pour apprendre à discriminer là, pour être plus efficace, par exemple?
Mais en réalité, il va falloir le trouver de quelle manière, oui. dans le fond, s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination.
Oui, que ça
comment
arrive
il entraîne,
oui.
comment il prend des décisions, comment il en vient à choisir des critères. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros chantier, je vous dirais, là, que je ne sais pas de quelle manière on va pouvoir y arriver, mais à mon avis, là, c'est des éléments qu'il va falloir absolument là, adresser là, au cours des prochaines années.
Vous avez encore du travail, là, c'est clair. Et est-ce que, de votre côté, là, ce que j'entends, c'est qu'une des solutions, c'est justement de faire plus de recherches sur ce type d'objet de recherche-là, sur ces sujets-là, pour mieux comprendre?
Oui, absolument. Donc, dès le départ, je pense que ce serait intéressant juste de voir de quelle manière les gens l'utilisent. Actuellement, on ne sait pas du tout. Il y a des gens, sans doute, qui trouvent toutes sortes d'outils par eux-mêmes, qui développent toutes sortes de solutions qui, dans le fond, vont les aider dans le cadre de leur travail. Je pense que déjà ça serait super intéressant de le savoir pour justement amener, dans le fond, comment dire, des connaissances qu'on peut transmettre à d'autres personnes que ça pourrait être intéressant. Puis après ça, je pense que c'est essentiel, en fait, qu'on réfléchisse, qu'on développe, dans le fond, peut-être des outils, justement, pour guider les gens qui développent ces technologies-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'on puisse les reconnaître, qu'on puisse s'assurer de la qualité, dans le fond, de leur fonctionnement.
Est-ce que c'est dans les idées du CRASPECH d'aller dans ces eaux-là au niveau de futures recherches?
Absolument. C'est sûr qu'il y a plusieurs éléments au niveau technologique. Là, je vous dirais que moi, j'ai pas ces qualités-là, malheureusement. Mais pour ce qui est, dans le fond, au moins de savoir comment ça l'utilise, comment les employeurs l'utilisent également, est-ce qu'il y a des discriminations qui peuvent se faire? Ça, à ce niveau-là, je pense qu'on pourrait faire là, quelque chose d'intéressant à ce niveau-là au cours des prochaines années. Oui, effectivement, ça nous intéresse beaucoup.
Et en terminant, pour le CRASPECH, qu'est-ce qui s'en vient en 2026? Quels sont vos projets qui sont en cours?
En fait, on a plusieurs projets. Dans le fond, ma collègue travaille beaucoup là sur qui s'appelle Audrey Dupont. Dans le fond, elle travaille beaucoup sur tout ce qui est là, la pédagogie inclusive. Donc, comment on fait en sorte, par exemple, que les études secondaires soient inclusives pour les étudiants et les étudiants en handicap. Ça, il travaille beaucoup là-dessus. Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est l'emploi, soutien à l'emploi. Actuellement, je travaille avec des communautés autochtones, justement, pour développer des outils, pour les soutenir, tout ce qui est soutenir les conseillers en emploi, pour justement mieux favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap dans les communautés autochtones. Donc, il y a vraiment toutes sortes de projets. En fond, je pourrais vous en parler pendant
oui.
des heures, mais juste vous dire là, que c'est parmi des projets très importants qu'on a actuellement.
Et en terminant, donc, pour les gens qui voudraient en savoir plus, j'imagine qu'on peut aller voir vos projets de recherche puis vos recherches antérieures là, sur le site Internet du CRASPECH.
Oui, absolument. Puis, dans le fond, on invite tout le monde aussi qui aurait des idées de projets, qui voudrait faire des collaborations avec nous, de nous contacter, dans le fond, facilement. Puis, ça va nous faire plaisir de vous parler.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Charrier. Vous êtes le co-directeur de la recherche au Centre de recherche pour l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu mieux là, ce que l'intelligence artificielle peut apporter à l'emploi.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir. Bonne journée.